Bonjour à vous. Il y a des passages de la Bible qui sont plus rafraîchissants ou revigorants que d'autres. Je pensais qu'il ferait chaud aujourd'hui, qu'il ferait chaud hier. Alors je m'étais dit, tiens, ce serait bien d'avoir un peu de rafraîchissement, mais finalement, il ne fait pas si chaud que ça. Néanmoins, effectivement, des passages sont plus rafraîchissants et plus revigorants que d'autres. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. J'étais fatigué cette semaine, et le passage qui s'est imposé à moi comporte un verset bien connu qui vous vient peut-être à l'esprit aussi quand vous êtes fatigué et chargé. Vous voyez duquel je veux parler peut-être. Ce sont des paroles de Jésus dans l'Évangile, l'Évangile de Matthieu. Passage que je vous invite à lire, à relire, en Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. Matthieu 11, verset 25. « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand on a besoin de souffler, quand on ressent le besoin de se réfugier aux pieds du Seigneur, quand on s'interroge peut-être sur le sens de ce que l'on fait ou de ce que l'on vit, moi je trouve qu'il fait du bien, ce petit passage. Se rappeler qui est notre Dieu, se rappeler en particulier sa douceur, sa bonté, sa bienveillance, que ce passage fait aussi ressortir, et il n'est pas le seul. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais ces derniers versets en particulier me redonnent du sens et de l'énergie. J'étais fatigué et Dieu m'a encore fait du bien à travers sa parole. Et pour vous. Comme des enfants. En général, on n'aime pas trop être infantilisé. Être sage et intelligent, n'est-ce pas au contraire toute la base de l'enseignement ? Toute la base de ce que l'on enseigne à nos enfants, justement. Car c'est en général ce que l'on veut que nos enfants deviennent. Tout ce que l'on espère pour nous-mêmes peut-être aussi. N'est-ce pas le cas ? Et pourtant, comme souvent, Jésus casse les codes et sa logique et ses attentes à l'égard de ses auditeurs et par extension de toute personne qui lit sa parole, Jésus renverse les hiérarchies établies et les logiques humaines. Certains ne le comprendront peut-être pas et trouveront plutôt ce verset 25 un peu péjoratif, condescendant, et pas rafraîchissant ou revigorant du tout. Ce premier verset nous rappelle en effet que Dieu ne se révèle pas aux sages et aux intelligents, mais aux enfants. On a peut-être en tête d'autres versets qui disent aussi des choses assez similaires. Oui, être comme un enfant, plutôt que d'être un enfant, car nous ne sommes plus vraiment, les années sont quand même un peu, voire beaucoup passées par là. Être comme un enfant, c'est cependant la condition indispensable pour vraiment comprendre ce que Dieu révèle. Étonnant, n'est-ce pas ? Ou peut-être pas toujours évident, ce serait plutôt un qualificatif que nous utiliserions. Si nous avons compris qui est Jésus le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, c'est que nous l'avons reçu comme des enfants. Avec confiance, par exemple. Confiance dans le sens de foi. Ce qui ne veut pas dire avec crédulité, c'est bien tout le contraire, ne confondons pas. C'est vrai qu'en tant qu'adulte, c'est plutôt souvent la méfiance qui prévaut face aux inconnus, face aux gens bizarres que l'on croise, à ceux qui nous abordent sans qu'on leur ait rien demandé. Et Jésus, par ses paroles, ses principes et préceptes à contre-courant du monde, peut de prime abord paraître bizarre. Mais ce que Dieu a fait pour nous et avec nous, c'est bien de nous avoir abordés de sa propre initiative. Il a fait le premier pas. Alors, méfiance ou confiance ? Nous avons compris et reçu Jésus comme des enfants, avec humilité et simplicité également. C'est vrai qu'en tant qu'adulte, c'est régulièrement la vanité, l'orgueil ou le sentiment de mérite que l'on mettrait en avant. Mais Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles, dit un verset de l'épître de Jacques. En adulte, on voudrait souvent essayer de rendre l'appareil, ne serait-ce qu'un peu, parce qu'on se sent redevable et que ça nous gêne quelque peu. Accepter facilement un cadeau de quelqu'un qui ne nous est pas proche, pas encore en tout cas, comme pourrait le faire un enfant, sans essayer de trouver une arrière-pensée, plutôt mauvaise en général, que l'on imagine motiverait ce geste étrange. On a parfois du mal en tant qu'adulte. Hein. Mais pourquoi il me donne ce magnifique cadeau, celui-là ? Il doit avoir une idée derrière la tête. Idée que l'on préjuge mauvaise, évidemment. Ou est-ce parce que l'on ne veut pas devoir quoi que ce soit à personne, que l'on aime notre indépendance ? Nous avons compris et reçu Jésus comme des enfants, avec sincérité aussi. Alors que pour certains d'entre nous, c'était peut-être la duplicité et les pensées tordues qui nous caractérisaient avant de connaître Dieu. Ça dépend des gens et des tempéraments, bien sûr, etc., etc. Quoi qu'il en soit, Jésus, en tout cas lui, ça le réjouit de considérer cela, et il en a loué le Père, son Père. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Ô Seigneur, garde-nous, aide-nous à garder un cœur d'enfant quand tu nous parles, confiant, humble, simple, sincère. Car oui, nous sommes tes enfants. Mais garde-nous des enfantillages et des chamailleries de gamins. Et ne nous trompons pas, Jésus ne se réjouit pas de l'ignorance spirituelle. Et en ce sens, d'autres passages nous demandent bien de devenir spirituellement adultes. Mais Jésus nous demande de ne jamais nous illusionner, de croire ou de comprendre les choses spirituelles, de croire que nous pourrions comprendre les choses spirituelles par notre propre entendement, car cela, c'est impossible. Soyons réceptifs, comptons sur le Saint-Esprit pour recevoir les dons de Dieu. 1 Corinthiens 2,14 nous dit « Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. » À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Un autre verset de la même épître dit « Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. » Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 27 de notre passage. Le mystère de la Trinité est un bien trop grand mystère pour pouvoir l'élucider maintenant en quelques minutes. Et clairement, par notre intelligence et notre sagesse humaine, nous n'y parviendrons pas. Pas la mienne en tout cas. On peut vite avoir le tournis en essayant de comprendre ces choses. Disons que simplement ce verset, comme de nombreux autres, affirme, réaffirme la divinité de Jésus-Christ et l'unicité de Dieu, dans une communion parfaite. Ce verset, comme de nombreux autres, affirme, réaffirme que le seul moyen de connaître Dieu, c'est Jésus, le seul chemin. On y croit ou on n'y croit pas. Mais celui ou celle qui n'y croit pas encore, mais qui humblement, sincèrement, en étant prêt à faire confiance, comme un enfant en fait, comme on vient de le rappeler, celui qui cherche à découvrir ce Dieu merveilleux, avec cet état d'esprit, avec cet état de cœur, alors Jésus lui révélera, se révélera. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit un autre verset de l'évangile de Jean. Cherchez, cherchez avec un cœur d'enfant et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. J'estime ne pas avoir compris grand-chose encore de ce mystère et de ce Dieu extraordinaire qui me dépasse tellement. Mais le peu que je sais, c'est déjà énorme, extraordinaire et source d'émerveillement. Quelle réjouissance quand je considère ce privilège de le connaître. Quel privilège en effet d'avoir goûté et de bénéficier de la communion avec Dieu, d'être entré dans son intimité. Moi aussi, ça me donne envie de louer Dieu. Même si ça peut être une expression qui semble un peu désuète, mon âme tressaille d'allégresse, comme dit un psaume. De l'extérieur, on pourrait croire que ces mots ne veulent rien dire, mais quand on a goûté à l'intimité avec Dieu, à l'amour de Christ, à sa grâce, on comprend ce que cela veut dire, n'est-ce pas ? Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Mais moi, je les connais. Et je ne m'en vante pas, je m'en réjouis, parce que le Fils me l'a révélé. Et vous ? Ouh là là, ce sont des illuminés ici. Je le dis de temps en temps, oui, nous le sommes, mais dans le bon sens du terme. Illuminés par Dieu, illuminés de Dieu. J'espère que ça se voit un peu dans nos vies. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Une telle affirmation de Jésus devait quand même être difficile à comprendre, difficile à accepter pour les contemporains de Jésus qu'ils croisaient. J'essaie souvent de me mettre à leur place et de me demander comment j'aurais moi-même réagi. Comme on l'a déjà dit ce matin, Jésus casse les codes et sa logique et ses attentes à l'égard de ses auditeurs renversent les hiérarchies établies et les logiques humaines. Et encore, les contemporains de Jésus, eux, ils le voyaient de leurs propres yeux, ils l'entendaient, ils voyaient les miracles qu'il faisait. Jésus, homme, avait tout reçu. Rappelle ce verset. Tout lui a été donné par Dieu le Père. Pouvoir, sagesse, autorité. Et l'Esprit Saint, évidemment, aussi. Ce n'est pas nécessairement facile pour nos contemporains aujourd'hui de le comprendre non plus. Mais nous arrivons à la partie que nous aimons sans doute. Ce verset 28, quelqu'un m'a dit hier, « Ah ouais, c'est top !» Je tairai le nom. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La traduction Sommer comporte « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Qui pourrait dire qu'il n'a jamais aspiré à cela ? Un bon repos. Fatigués et chargés, ou accablés, évoque l'image d'une bête de somme ployant sous sa charge trop lourde. Et le mot grec original est étymologiquement parent de marteau et de coup, et il désigne en premier lieu la fatigue physique et morale résultant d'un coup reçu. Boum, un coup sur la tête, par exemple. Et au-delà de la fatigue physique, c'est vrai que parfois certaines mauvaises nouvelles nous font cet effet-là. Certaines épreuves le sont souvent. D'autres auteurs grecs de l'époque employaient aussi ces mots dans le sens de dépression, signifiant épuisé, las, abattu. Bref, des situations où on n'est pas bien en forme, et on peut sûrement tous se retrouver là-dedans, à un moment ou un autre. Jésus propose le repos, invite au repos, car il peut le donner. Il le donnera, dit-il effectivement dans ce verset. Mais pourtant, si on considère ce verset dans son contexte, ce que je pense qu'il faut toujours faire pour ne pas avoir une compréhension erronée, ou en tout cas partielle des choses, les paroles qui suivent ne semblent pas si réconfortantes que ça. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Mais est-ce qu'on lit bien là ? Jésus ne dit pas « Donnez-moi vos fardeaux, je vous les enlève », mais plutôt « Je vais vous donner un autre fardeau, léger, celui-là. » Il ne dit pas « Je vous libère de toute entrave », il dit plutôt « Je vous mets une pièce d'attelage qui ne vous fera pas violence, douce. » Ah bon ? Bon, c'est déjà mieux que rien, mais ce n'est pas exactement ce à quoi j'aspirais, ce dont je rêvais. Jésus utilise deux images agricoles, une bête de trait et une bête de somme. Merci de la comparaison. C'est vrai quoi, on n'est ni des bœufs, ni des bourricots quand même. Ces images devaient parler aux gens de son époque, dans sa société agricole en tout cas, mais pour nous. La bête de trait, on lui met un joug. La bête de somme, on la charge d'un fardeau. Fardeau, par définition, vérifiez dans vos dictionnaires, c'est tout de même un poids qu'il faut porter, une chose qui pèse. Et joug, par définition, selon le dictionnaire encore, c'est une pièce de bois que l'on met sur l'échine des bœufs ou autres animaux de trait pour les atteler. Ben, si c'est tout ce que Jésus propose, est-ce vraiment intéressant ? C'est pourtant bien ce qu'il dit. C'est quand même curieux que Jésus utilise ces images dans l'Évangile, alors qu'on dit toujours l'Évangile est censé être libérateur, totalement libérateur. Honnêtement, il faut reconnaître que ce que propose Jésus passe peut-être à côté de nos aspirations premières, en tout cas si on le lit à première vue comme ça. C'est quelque peu contradictoire avec notre soif de liberté pleine et entière, libre de toute entrave. Mais moi, je veux être totalement débarrassé de tout fardeau. Pas qu'à moitié ou aux trois quarts, ou même à 95% en récupérant un autre. Je n'en veux plus du tout. Et voilà. Et avoir un joug sur mes épaules, non, c'est pas trop mon truc non plus. Oui, on peut être surpris que dans ces versets, Jésus ne semble pas proposer une liberté absolue. Vous en pensez quoi ? L'idée derrière ces images est évidemment de dire que celui qui s'attache à Jésus trouve un bon maître. Celui qui s'attache à Jésus trouve un bon maître. Comme la bête de trait qui passe d'un mauvais cultivateur à un bon. Le mauvais s'en fichait si le joug qu'il mettait à la bête s'adaptait mal ou bien. Il s'en fichait si ça lui faisait mal ou pas. Son nouveau maître est au contraire très attentionné et lui met un joug bien adapté, doux, qui ne blesse pas. Idem pour la bête de somme, qui auparavant croulait sous sa charge, était sans cesse frappée par son mauvais propriétaire. Elle est désormais considérée, préservée, soulagée. On pourrait quand même toujours se dire « bof, j'ai pas trop envie d'un nouveau maître ou d'un nouveau propriétaire, moi ». Mais il faut assurément lire ces versets au-delà du domaine purement physique. La réalité spirituelle est que chacun a un maître de toute façon. Chacun a un maître de toute façon. C'est ce que ces versets expriment sur le fond. Qu'on le veuille ou non, que l'on en soit conscient ou non, que l'on y croit ou non. La réalité spirituelle est que chacun a un maître de toute façon. Désolé de peut-être casser vos illusions, Pour être sincère, je ne suis pas désolé en fait. Si c'est votre cas, je me réjouis même plutôt que vos yeux spirituels puissent s'ouvrir sur cette réalité spirituelle, sur votre réalité peut-être. Et c'est un honneur pour moi si je peux y aider. Oui, de fait, nous avons tous un maître et propriétaire. Dieu ou l'ennemi ? Ah, c'est dur de l'entendre. C'est dur de l'admettre. Les gens peuvent le nier et s'en défendre. Mais la réalité reste la réalité. L'être humain n'est jamais indépendant. Même si le diable est subtil et l'avoir pour maître est souvent trompeuse, trompeusement agréable, pour un temps en tout cas. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un carcan très rigide, effectivement, comme celui de la loi, de la religion, comme la subissaient les Juifs, par exemple, à l'époque de Jésus, avec leurs centaines de préceptes, d'obligations, de choses à faire, à ne pas faire, qui leur étaient imposées et qui les avaient éloignés de Dieu et de la simplicité de la relation que Dieu propose. Et bien d'autres choses qui sont aujourd'hui encore des sources d'égarement pour les gens, ou qui les retiennent sous un joug violent ou un fardeau très lourd. Ces versets disent « Celui qui s'attache à moi, Jésus donc, trouve un bon maître. » Celui qui s'attache à Jésus trouve un bon maître. S'attacher à Jésus, lui manifester notre obéissance, c'est accepter son joug doux. Car les lois et les commandements de l'Évangile ne sont source de vie et de liberté, mais de vraie liberté. Ils sont bons, tout sauf un poids ou un carcan. Mais quand même, je ne veux pas de maître, moi, diront toujours et encore beaucoup de gens. Mais vous en avez déjà un, mais vous ne le savez pas, et ce n'est pas le bon. Je ne veux pas de maître, vous en avez déjà un, et ce n'est pas le bon. Et vous, quel maître avez-vous ? Au-delà du domaine purement physique, le repos que Jésus apporte, c'est alors le repos de nos âmes. Le repos de nos âmes, comme il le souligne bien évidemment. Pas toujours le repos de notre chair ou de notre corps, mais celui de nos âmes. Certains diront que c'est chimérique, on y croit, ou on n'y croit pas, comme souligné tout à l'heure. Ça fait partie de la liberté, de la responsabilité de chacun. Mais n'est-ce pas le plus important ? Et nettement plus important. Car le poids principal que Jésus prend de nous, celui qui nous enlève, c'est évidemment le poids de notre péché. Et moi, le repos de mon âme, un plein repos spirituel, paix intérieure et vraie liberté, je sais que j'en ai besoin. Ce que tant de gens malheureusement cherchent du mauvais côté, oui, je sais que ça fait vraiment du bien de le trouver. Et je pense que vous le savez aussi. Merci Seigneur Jésus. Nul vrai repos, nulle vraie paix ne se trouve autrement qu'en toi. Rien n'est plus rafraîchissant et renouvelant, en fait, que le repos spirituel. Même si l'on a encore un petit fardeau à porter pour un temps. Car son repos n'est pas une cessation d'activité, son repos n'est pas une oisiveté, mais c'est une réorientation pour le bon maître. Et en guise de liberté, oui, Jésus nous donne la vraie liberté, celle de dépendre de lui. Celle de dépendre du Créateur, celle de dépendre de celui qui nous aime de façon parfaite. C'est ça la vraie liberté. Le salut en Jésus-Christ, c'est la paix avec Dieu, et donc le repos de nos âmes. Oui, trouver du repos pour nos âmes, c'est avoir la paix de l'esprit et du cœur, paix qui provient de la connaissance de Christ et de notre mise à son service. J'étais fatigué cette semaine. Beaucoup de choses à faire, mais Dieu m'a rafraîchi. A rafraîchi mon âme, sinon mon corps. Là, j'ai encore besoin d'un petit peu de sommeil. Dieu m'a renouvelé en me rappelant ces choses, simples peut-être, mais tellement essentielles, vitales même. Merci Seigneur. Et c'est un privilège et une joie d'être à son service, d'être à votre service. Le joug est là, mais il est doux, car le Seigneur l'a ajusté. Le fardeau est là, mais il est léger, car le Seigneur porte quasiment tout. Jésus est doux et humble. Il n'est pas impatient quand nous sommes lents à apprendre. Il n'est pas dur ou intransigeant quand nous trébuchons. Oui, nous pouvons être heureux de le suivre. Amen.